Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle sur RMC, soirée jusqu'à 1h30 du matin. Et oui, on va vous faire vivre la 106e finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. On sera dans un instant au Stade de France avec Jean Rességuier, avec Pierre-Yves Leroux qui vont commenter cette finale pour vous sur RMC. On retrouvera aussi nos envoyés spéciaux sur place à Nantes, à Toulouse, jusqu'au coup d'envoi de cette finale prévue à 21h. Un match à suivre donc en direct et en intégralité avec toute l'équipe de l'After qui a été délocalisée au Stade de France autour de Nicolas Jamin pour l'occasion. Et puis après l'after, il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin pour prolonger la soirée sur RMC avec vous, supporters nantais et supporters toulousains. Il tremble déjà, je ne sais pas pour qui il est. Sébastien Piocel est avec nous. Salut Seb.
Salut François, bonjour à tous.
On ne le cache pas, tu es canari et vainqueur de la Coupe de France.
Entre autres, ouais, je suis pour Nantes. Bon, je ne suis pas trop inquiet, je ne suis pas stressé. Je pense que l'expérience va faire ce qu'il faut.
Titulaire en 99 contre eux.
Sedan.
Contre Sedan lors de la victoire. Sébastien Piocel au milieu de terrain lors d'une victoire nantaise. Les Nantais tenant du titre. Et on ira à Nantes dans un instant retrouver d'ailleurs Xavier Grimaud pour voir un petit peu l'ambiance. On ira aussi du côté de Toulouse retrouver Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Au programme aussi dans l'intégral foot, la 33e journée de Ligue 2 avec une lutte au sommet, une lutte royale pour la montée entre Bordeaux et Metz. Je rappelle que Le Havre s'est imposé 2-1 à Caen et a fait un pas de plus vers la Ligue 1. Les Havrais qui comptent désormais 9 points d'avance sur Bordeaux, 10 points sur Metz, lutte à distance donc entre Bordeaux et Metz. Direction tout de suite Valenciennes, le stade du Hainaut pour Valenciennes-Bordeaux. On retrouve Clément Brossard. Salut Clément.
Salut François, salut Sébastien. Belle ambiance Hainaut aujourd'hui avec de nombreux supporters bordelais et le large sourire de David Guisson. Quasiment 1000 les supporters bordelais avec fumigène, avec info et le montré joueur. Il y a une vraie belle ambiance parce qu'on commence à y croire, parce qu'on n'a plus le droit au faux pas non plus pour les bordelais. Évidemment, l'échéance arrive de la fin de saison et la marge d'erreur est de plus réduite, un point d'avance seulement sur Metz. Petite info pour vous dire que Gaëtan Poussin, le gardien, est toujours suspendu après ce carton rouge reçu face à Metz. Il purge son deuxième match de suspension. Et puis devant, il y a le buteur maison, Josh Maja, 15 buts déjà cette saison, qui avec un but de plus ce soir pourrait rentrer un petit peu plus, presque, dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Jamais facile de venir jouer à Valenciennes, qui n'a perdu qu'une seule fois, adepte du match nul. 10 matchs nuls à domicile pour les Valenciennois. Personne n'a fait autant de partage des points. Et la dernière venue bordelaise ici au Hainaut, c'était il y a 9 ans. Les Bordelais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Julien Faubert et avaient enterré les espoirs de maintien en Ligue 1 de Valenciennes, qui s'était donc non maintenu et était descendu en Ligue 2. Il y aura peut-être un sentiment de revanche désormais pour les hommes d'Ahmed Kantari. Ça vient de partir à l'instant 0-0 évidemment entre Valenciennes et Bordeaux.
Valenciennes-Bordeaux avec Clément Brossard, et on suit également du côté de Saint-Symphorien Metz contre le Paris FC. Metz 3e, commenté par Patrick Muller. Salut Patrick.
Salut François. Salut Seb.
Salut Patrick.
Avec Metz qui est sur une série impressionnante de matchs sans défaite, il faut poursuivre cette série impérativement pour continuer à mettre la pression sur Bordeaux.
Ah bah c'est ça, victoire quasi obligatoire pour continuer d'y croire. Hein. Voilà, c'est ma petite formulation un peu lyrique, François. Je sais que ça te parlera et je pense que tu trembles aussi à l'image d'un Sébastien Piocel qui va forcément avoir.
Jamais, moi je suis solide, contrairement à Sébastien Piocel.
Ouais, mais pas complètement
il est en France, il est en Suisse. C'est la deuxième chemise qu'il a.
Je pense qu'il va être, supporter valenciennois, notre ami François. Ce soir, ouais, effectivement.
J'aime bien Valenciennes, c'est sympa.
Non, mais c'est vrai, très belle série. 19 matchs sans la moindre défaite pour le FC Metz, qui est à un point de Bordeaux, qui a battu Bordeaux ici même il y a deux semaines, qui est allé s'imposer à Saint-Etienne 3-1 lors de la précédente journée. Encore une très belle ambiance et une très belle affluence ici à Saint-Symphorien. Alors, moins que ça avait été le cas face à Bordeaux, il y avait eu 23 500 personnes dans les travées de ce stade. Mais à mon avis, on doit être pas loin des 20 000 spectateurs. Attention peut-être à cette première situation. Pour le Paris FC, ça passe au-dessus cette tentative. Le PFC, bon, qui n'a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison, qui reste sur un succès plutôt probant, 3-0 face à Nîmes, alors que les Messins, on l'a dit, eh bien, sont sur une belle dynamique. Voilà, ils ont eu un gros trou d'air au mois d'octobre, de novembre. Ils ont su redresser la barre avec ce premier succès contre Saint-Etienne, qui a lancé donc cette invraisemblable série de 19 matchs sans la moindre défaite. Ils sont lancés, mais... Eh bien, ils sont toujours derrière Bordeaux. Ils n'ont aucun joker, hein, clairement. Si Bordeaux fait le plein, bah, ce sera terminé pour Metz. Et donc, voilà, faux pas interdit et victoire fortement recommandée pour les hommes de Laszlo Polony. 2 minutes de jeu ici sur la pelouse de Saint-Symphorien et 0-0, bien évidemment, entre Metz et le Paris FC.
Et puis d'autres rencontres, bien sûr, pour cette 33e journée de Ligue 2 à suivre avec toi, Johan Bredov. Salut, Johan.
Salut, messieurs, salut à tous.
Salut, Johan.
avec des enjeux, bien évidemment, notamment pour le maintien.
Ouais, pour le maintien, avec pas mal d'équipes, notamment Niort, un dernier qui se déplace à Grenoble. Niort qui est dans l'obligation de victoire, même si ça paraît compliqué pour rester en Ligue 2, tout comme Nîmes qui reçoit Pau. Quevilly-Rouen face à Annecy. On a aussi du Guingamp-Laval. Laval qui se déplace sur la pelouse des Guingampais. Les Tangos qui ont deux longueurs de retard sur le premier non relégable, hein, Laval qui est le premier relégable. Rodez Saint-Etienne donc et Bastia Amiens. Il y a un but à signaler au stade des Antonins. C'est Nîmes qui mène 1-0 face à Pau. Le but de Saïd, voilà, au bout de 2 minutes de jeu. Très important ce résultat pour les Crocos qui sont, je vous le disais, dans l'obligation de gagner, là qui reviendrait pour l'instant à 5 points du premier non relégable. Donc 1-0 pour Nîmes face à Pau.
Ça, c'est important effectivement pour les Nîmois. Je sais, Sébastien, que tu suis bien sûr le destin des Crocos, puisque tu y es passé aussi. Les Nîmois qui sont dans l'obligation de gagner face à Pau, qui n'est pas encore totalement sauvé.
Ouais, en tout cas Pau qui est pas très loin quand même du maintien. Mais c'est vrai que pour Nîmes, notamment à domicile, il faut absolument gagner ce match ce soir.
Ouais, c'est vrai que
depuis changement de stade en plus, c'est une année très très compliquée sur et en dehors des terrains.
Comment tu vois le duel à distance, puisqu'on va retourner dans un instant du côté de Valenciennes pour Valenciennes-Bordeaux et Metz-Paris-FC, avant de retrouver bien évidemment aussi nos commentateurs pour la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Comment tu vois ce duel à distance entre Bordeaux et Metz? On a l'impression que les deux équipes ne veulent absolument rien lâcher. Bordeaux a répondu la dernière fois à la victoire messine contre Saint-Etienne.
J'ai l'impression que Metz est plus solide. Alors c'est facile de dire ça avec ces 19 matchs en défaite, on les sent vraiment vraiment sereins. Maintenant Bordeaux a la chance d'avoir ce point supplémentaire. C'est vrai que il faut quasiment pas faire de 200 fautes, mais si je devais en choisir un, j'irais plutôt Metz.
Un but à nouveau, Johan Bredov en Ligue 2.
Il est pour Guingamp, 1-0 face à Laval. Là aussi, résultat très important dans la lutte pour le maintien, hein, je vous le disais. Laval qui était le premier relégable, et Sylvie Volant sur pénalty qui permet aux Guingampais d'ouvrir le score après 4 minutes de jouer. 1-0 donc pour Guingamp face à Laval.
Très bien, effectivement, 1-0 pour Guingamp face à Laval, 1-0 pour Nîmes face à Pau, 0-0 pour l'instant dans les autres rencontres. Tout de suite à 19h04, Sébastien va prendre la direction du Stade de France, évidemment. Retrouver Jeannot Rességuier et Pierre-Yves Leroux. Salut messieurs.
Bonsoir. Salut. Tout le monde. En musique.
Salut.
Hein. Tu sais, avec la victoire de l'AS Monaco, ouais, à l'instant même, en finale de la Gambardella, oui, face à Clermont, 4-2.
Belle
scène
finale,
de liesse. Scène de liesse. Ouais, belle finale, très ouverte.
Tu as remarqué qu'il joue en violet, hein, Monaco.
Oui, bah oui. Voilà. Ouais, non, ouais. J'ai remarqué, moi.
Que ton stabilo, là, à côté, était violet.
Voilà.
Que tout était chez le maillot d'Aricilé à côté de moi.
Sébastien, tu verrais ça me fait mal aux yeux aussi.
Non, mais je savais qu'il y avait Sébastien à partir de 19h. Ça allait faire trop de Nantais, si tu veux. Fallait que je me pare un petit peu, quand même.
Je peux t'aider, mais j'ai pas mis ma chemise violette là pour
ouais,
le coup,
toi t'es plutôt Grenat, toi, c'est
voilà,
ça.
Voilà, je suis plutôt Grenat, exactement. Bon, cette finale de Coupe de France, je le rappelle, Nantes-Toulouse, bien sûr, pour ceux qui nous rejoignent. Bon, on sait que Pierre-Yves Leroux, il va aller plutôt jaune et vert ce soir, mais Jeannot, il est plutôt violet, parce que Jeannot, toi, t'es de Montauban, mais t'as connu les...
Ah, c'est le club de mes débuts de
voilà,
journaliste. Voilà, j'ai une vraie histoire avec mes débuts de journaliste, avec cette époque européenne, Beto Marsico, l'histoire de Maradona qui manque son pénalty en Coupe d'Europe avec Naples. Voilà, c'est ça déjà dans un premier temps. Après, c'est une équipe qui va chercher l'Europe, souvenez-vous, avec l'envahissement du terrain des Nantais qui perturbe un peu le championnat.
C'est très ancien pour moi. Maradona, il jouait à Toulouse.
Non, il a joué avec Naples et été éliminé par Toulouse. T'as besoin de culture de football, toi, ce soir. On va te rappeler. On va te rafraîchir la mémoire, t'inquiète pas. Et après, il y a cette troisième place avec le triplé d'Elmander face à Bordeaux lors de la dernière journée, hein, en 2007. Bon, après, oui, tour faute de barrage contre Liverpool, ça, à la limite, on n'en parle pas. Mais après, il y a la dégringolade avec les Pitchouns, avec jusqu'au National, la remontée en Ligue 2, puis la remontée en Ligue 1 avec le président Olivier Sadran. Et puis maintenant, depuis donc quasiment 3 ans, Toulouse renaît de ses cendres avec les actionnaires américains, avec Red Bird, avec le président Comolli. Et puis il y a eu cette fameuse rencontre de barrage contre Nantes la première saison où ils ont été gagnés à Nantes, mais ça n'a pas suffi pour envoyer Nantes en Ligue 2 et monter en Ligue 1. Donc la saison suivante, ça a été le titre de champion avec la montée. Et figurez-vous que c'est presque un an jour pour jour de valider le billet en Ligue 1 qui se retrouve en finale de la Coupe de France. Donc ça reste une belle histoire et c'est une première, surtout au Stade de France.
Et RMC est la seule radio où vous pouvez justement avoir Jeannot Rességuier et Pierre-Yves Leroux ensemble amicalement, bien sûr.
Tout à fait.
Bien sûr.
Pile, on va s'éviter le résumé du FC Nantes en Coupe d'Europe.
Il a parlé deux minutes, Jadon. De troisième place au championnat. Moi, on me parle, on me demande l'histoire de Toulouse. Voilà,
je voulais résumer.
J'ai fait court, les gars. J'ai respectueux.
Non, mais c'était très bien. Mais c'est vrai que sur le maillot des Nantais, on aperçoit à peine la couleur, tellement il y a d'étoiles. C'est vrai qu'on voit bien le violet sur le maillot toulousain.
Bon, en tout cas, avant de parler du sportif et d'y revenir un petit peu avec vous, un mot de l'ambiance attendue au Stade de France. Bah justement, est-ce que ça va être marée jaune et verte ou marée violette?
60-40, je pense. 60-40. Ouais. On est en train alors, on n'est pas comme Fabien Lévesque, notre confrère de France Télévisions, qui est très objectif et qui nous a annoncé 50 000 Nantais. Bon, là, il s'est un peu enflammé. Je pense qu'il a été perturbé par les ultraviolets, les supporters toulousains, au moment où il a essayé d'avoir cette info.
Les UV, ça veut...
Mais ouais, c'est ça, les UV, ça perturbe un peu. Et bon, on est à 60-40. Il y aura quand même moins, on va dire, de différence dans la globalité du stade que l'an passé. Parce qu'on se souvient que les Niçois avaient renvoyé pas mal de places. Et donc, dans le grand public, il y en a qui ont été très malins pour faire ça. Et puis, bon, après, il faut reconnaître que Nantes est un club qui amène très souvent ses supporters dans des finales de Coupe nationale. Ils ont déjà fait le doublé en 99 et 2000. Il y a une vraie habitude, il y a une vraie envie de communier dans un match particulier que représente une finale de Coupe de France. Donc ça, déjà, c'est normal. Mais d'avoir réussi à amener 25 000 Toulousains dans un pays soi-disant de rugby et que de rugby, mais non, finalement, il y a aussi le foot. Je trouve que déjà, le premier défi est relevé.
Ouais, tu vois, Sébastien, il se satisfait de petites choses, de troisième place au championnat, de 25 000 personnes. Donc je pense qu'il se satisfera tout à l'heure d'une arrivée en finale.
Des mouchoirs que je vais te donner quand tu vas pleurer, effectivement.
De perdre juste 1-0, quoi.
Oui, c'est ça. Mais en plus, gagner une finale pour pas jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, je trouve que l'intérêt est quand même limité.
L'avantage, c'est que Pierre-Yves Leroux, en fait, ce soir, va être sur le bord de la pelouse. Donc moi, je lui ai préparé un trombinoscope des joueurs de Toulouse parce qu'il va leur courir après, mais comme il parle pas le belge, le néerlandais, le japonais, le suédois, le norvégien ou le danois, voilà, il fera l'effort de reconnaître les joueurs pour les féliciter, bien évidemment.
Bon, en tout cas, effectivement, pour l'ambiance dans les tribunes, on suivra ça aussi. Hein. On va en parler
autour
aussi
du stade, c'est magnifique, hein, très honnêtement.
Ouais. Et puis il y avait le cortège qui est arrivé il y a quelques instants avec toute la Brigade Loire. Ils étaient plus de 5000. Ça s'est très très bien passé. Ils étaient dans un petit parc juste à côté du parc de la Légion d'honneur. Tout s'est très très bien déroulé. C'était très festif. Et voilà, il faut que ça soit une fête ce soir.
Exactement.
C'est la fête du football.
On a beaucoup parlé ces derniers temps des grilles dans l'enceinte du stade qui ont été levées, d'un match sous tension, puisqu'il y a quand même 3000 policiers et gendarmes prévus pour encadrer les supporters.
Plus tard, mais il y a un vrai contexte autour du match, par rapport à la présence du président de la République, la modification du protocole d'avant-match. Ce sera un serrage de main avec le président de la République dans le couloir qui sépare, on va dire, les vestiaires des deux équipes jusqu'à la pelouse, et la remise du trophée qui, ces trois dernières années, se faisait sur la pelouse, parce que post-Covid, la dernière fois, c'était en 2019 avec la victoire de Rennes face à Paris. Souvenez-vous, Neymar qui était accroché par un supporter pendant qu'il montait les marches. Eh bien, la Coupe de France sera en 2023 remise en tribune.
Nantes-Toulouse, c'est cette finale de Coupe de France qu'on vous propose de vivre sur RMC, bien sûr. Soirée exceptionnelle. On est avec Sébastien Piocelle dans l'Intégral Foot, avec Jeannot Rességuier et Pierre-Yves Leroux qui vont commenter cette finale. Sportivement, messieurs, il y a quand même deux dynamiques totalement différentes entre un Nantes qui doit jouer pour sa survie en Ligue 1, qui a deux matchs très importants à venir après cette finale de Coupe de France, et puis un TFC qui est sauvé en Ligue 1 et qui fait une très très belle saison.
C'est sûr qu'en championnat, c'est compliqué pour les Nantais. Hein.
Oui, c'est sûr. 9 matchs sans victoire. Il n'y a pas eu de victoire depuis le 12 février du côté des Nantais. C'est tout le paradoxe de cette équipe qui est incapable actuellement de mettre un pied devant l'autre en championnat, qui avance par petits points, petits nuls par-ci par-là. Et puis cette équipe qui est intouchable en coupe. Et ça, c'est vrai.
Parce que quand tu perds 3-0 à la maison contre Reims et que le coup d'après tu sors Lyon en demi-finale, tu prouves quand même que tu as un vrai visage de coupe.
La question, c'est quel visage justement va donner le FC Nantes ce soir, avec des petits avantages, celui d'avoir connu le Stade de France l'année dernière, de pas avoir peur de ce grand stade, d'être
pour moi c'est un gros, celui-ci, davantage.
Oui, c'est vraiment
énorme,
un
élément important.
Après, sur la dynamique et même sur la qualité peut-être de jeu et d'équipe, c'est vrai que on peut estimer le TFC au-dessus. Hein,
Alors comme ça sera 60-40, Toulouse va jouer à l'extérieur, et Toulouse a gagné à Montpellier, a gagné à Lorient, et plutôt sur une bonne dynamique en match à l'extérieur, mais a quasiment son maintien d'assuré. Et c'est, tu as raison, c'est Sébastien. La principale interrogation, c'est la gestion de l'événement, de se retrouver au Stade de France devant 78 000 spectateurs, avec la pression de ce que peut représenter une finale de Coupe de France.
C'est la clé.
C'est la clé du match.
La clé pour Toulouse.
Et l'entame de match. Ouais. Et l'entame de match.
On va suivre ça, bien sûr, avec vous, messieurs. Pierre-Yves Leroux, Jeannot Essegui, en direct du Stade de France. On vous retrouve dès que vous avez les compos.
On va boire une bière, là, avec Pile, juste avant le match.
Pas trop non plus, hein, parce que vous êtes déjà bien chauds, les gars. Merci beaucoup, en tout cas. Et à tout à l'heure, bien sûr, on va continuer de parler dans un instant de cette finale de Coupe de France. On sera à Toulouse, d'ailleurs, place du Capitole, dans un petit instant, pour voir comment se préparent les festivités en cas de titre pour le TFC. Et puis, on ira aussi, bien sûr, t'inquiète pas Sébastien, du côté de Nantes. La Ligue 2, la 33e journée, on suit les matchs en ce moment en direct, notamment le match entre Valenciennes et Bordeaux. Clément Brossard, le temps et le score.
La 13e minute, 0-0 après un début de match bien rythmé entre les deux formations, toujours pas de but.
Metz, Paris FC.
Et l'ouverture du score à l'instant, François, pour le Paris FC. Et c'est la douche froide, bien évidemment, ici au Stade Saint-Symphorien. Je vais essayer de vérifier l'identité du buteur. Belle frappe enveloppée qui vient se nicher dans le petit filet, presque dans la lucarne gauche d'Alexandre Oukidja. Et c'est Guy Lavogui qui a inscrit son 14e but, merci. Et voilà, et bien c'est pas le scénario attendu côté Messin. Et pourtant les Grenats avaient fait une bonne entame, mais là, et bien cette très belle réalisation de Morgan Guy Lavogui.
Il est
beau,
magnifique, hein,
il est beau, exactement.
Un double 1-2 là de Guy Lavogui, ouais. Et puis après derrière c'est pleine lucarne.
Là on peut rien faire. Ouais.
13 minutes et donc 1-0 pour le PFC sur la pelouse de Metz.
Et d'autres buts en Ligue 2, Johan Bredov.
Il y a eu un but pour Annecy sur la pelouse de Quevilly-Rouen, lui aussi très important. Annecy qui lutte pour son maintien, qui était 16e avant cette journée, 2 points d'avance sur la zone rouge. Et pour l'instant, les Annéciens qui mènent 1-0, le CSC de Boyekan, donc sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Sinon, Nîmes mène toujours 1-0 face à Pau. Toujours 1-0 également, le but sur pénalty de Livolant pour Guingamp face à Laval. Et pas de but entre Bastia et Amiens. Pas de but non plus entre Grenoble et Niort. Et 0-0 entre Rodez et Saint-Etienne au quart d'heure de jeu.
19h14, on revient tout de suite sur RMC pour la suite de cette 33e journée de Ligue 2. Et donc pour parler de cette finale de Coupe de France. 21h, le coup d'envoi entre Nantes et Toulouse. On sera à Toulouse dans un petit instant. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 19h15, vous êtes sur RMC. On lance cette grande soirée Coupe de France qui va nous emmener jusqu'à 1h30, 1h30 du matin. Oui, oui. Sébastien Piocel sera déjà au dodo, mais il nous écoutera. Sébastien, je pense qu'il y aura une grande antenne.
En train de fêter la victoire de Nantes.
Avec Walid Acherchour, avec Lému également, notre confrère de Twitch, qui sera d'ailleurs sur Twitch, hein, cette libre antenne. Vous pourrez la suivre si vous avez Twitch, bien évidemment. Avec vous, supporters nantais, supporters toulousains ou autres, bien évidemment, pour venir parler de foot, mais pas que. C'est ça la libre antenne. À partir de 12h30 jusqu'à 1h30. Et avant cela, bien sûr, le grand match Nantes-Toulouse. Ça sera à 21h le coup d'envoi avec Jeannot Essegui, avec Pierre-Yves Leroux, et on ira au Stade de France avec Nico Jamin et toute l'équipe de l'After. Ça sera à partir de...
Et on a pénalty, François.
Metz Paris FC.
Pénalty en faveur du FC Metz. Il faut rappeler, bien évidemment, que c'est le PFC qui mène au score, hein, depuis 3 minutes de cela. Mais là, il y a eu une jolie combinaison entre les Pistons Messins. Je crois que c'est un jeu à deux avec Sabelli et peut-être Ablaye Diallo. Toujours est-il qu'il y aura un pénalty. Et qui pour le frapper? Tout simplement, Georges Mikotadze, meilleur buteur de Ligue 2 avec 19 réalisations. Et donc les Messins qui ont la possibilité, avec un carton jaune au passage, me semble-t-il, pour Masson qui est auteur. Ouais, il semblerait. Faute, ouais, et la faute est indiscutable.
L'avis de Monsieur Piocel.
La faute, ouais, est...
Ah oui, oui, oui.
La faute est effectivement indiscutable.
Il fait les gros jeux, c'est pour ça. Il n'y a pas le choix.
Et Georges Mikotadze qui a l'occasion d'inscrire un 20e but cette saison. Et surtout, bien sûr, eh bien, d'égaliser en faveur du FC Metz. Georges Mikotadze face à Vincent Demarconnet. C'est parti. Et le contre-pied parfait. Un partout entre Metz et le PFC. 17 minutes de jeu. Le but, le pénalty transformé par Georges Mikotadze. Morgan Guilavogui, tout à l'heure à la 13e minute, avait ouvert la marque pour le PFC. Un partout désormais.
Indispensable Mikotadze pour le FC Metz, effectivement, qui relance les Messins. On va aller du côté de... Avant d'aller du côté de Valenciennes, il y a eu un nouveau but en Ligue 2 sur les autres rencontres.
L'égalisation paloise sur la pelouse de Nîmes qui menait 1-0 dès la 2e minute de jeu. Et c'est Henri Cévé qui permet donc au Pau FC d'égaliser à la 17e. Beau but, belle frappe juste en dehors de la surface de réparation. réparation donc de Cévet. Un but partout entre Nîmes et Pau, 19e minute de jeu.
Henri Cévet, aussi un Bordelais.
Bien sûr.
Bah on va du côté de Valenciennes pour Valenciennes-Bordeaux. Clément Brossard.
Qu'est-ce qu'il est bon en transition. 0-0 après 18 minutes de jeu. Début de match, on le disait, avec pas mal d'intensité. Il y a eu des premières occasions pour Valenciennes dans les toutes premières minutes avec notamment un milieu de terrain très actif. Emen Boutoutaou qui a tenté sa chance à deux reprises. Une première fois devant Strachek et une seconde fois sans trouver le cadre. Josh Maja, vous parlez de Miko Tadze pour Metz, mais l'homme providentiel pour Bordeaux, c'est bien Josh Maja. Il a hérité d'un ballon tout à l'heure dans la surface de réparation. Dos au but. Compliqué pour cette frappe en pivot qu'il n'a pas réussi à cadrer non plus. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de rythme dans cette partie. Quelques accrochages aussi, on l'a vu à l'instant, avec notamment Josh Maja et Quentin Lecoeche. Mais les Valenciennois, qui sont 15e de cette Ligue 2, eh bien, n'en démordent pas avec justement Hugo Bonnet, qui s'est présenté, qui avait trouvé un peu d'espace devant lui. Mais la bonne sortie de Raphaël Strachek, qui remplace pour la deuxième fois donc Gaëtan Poussin, suspendu. 0-0 après 19 minutes de jeu au Hainaut.
Et pour l'instant, le Real Madrid en Liga mène 3 buts à 1 face à Almeria avec un triplé de
Benzema.
De Karim Benzema.
J'avais vu le premier but, donc je me suis douté que.
C'est bien, ouais, c'est logique, toi, quand même. Hein. C'est pour ça que tu as fait une petite carrière. Benzema triplé, effectivement, contre Almeria 3-1 à la mi-temps pour le Real Madrid dans ce match de la 32e journée de Liga. Le foot, c'est aussi la Coupe de France, bien évidemment. Ce soir, Nantes-Toulouse à suivre en direct et en intégralité sur RMC à partir de 21h. Le coup d'envoi, dès 20h, on sera au Stade de France avec Nicolas Jamin et toute l'équipe de l'After délocalisée sur place. On va aller direction le Capitole. C'est à Toulouse. On va rejoindre notre envoyé spécial, Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut François, salut à tous.
Alors
salut,
j'entends, il y a peut-être déjà une ambiance de fête autour de toi, non, au Capitole, ou je me trompe?
Alors, j'étais au Capitole et puis il y a trois fans du Super Moscato Show qui m'ont embrigadé à quelques kilomètres du stade de
ça
du
fait
Capitole.
Deux pour Metz. Ça fait deux pour Metz.
On y va, Patrick.
Et que dit l'arbitre? Et que dit l'arbitre? Alors. Eh bien, il y aura une faute. Il y aura une faute peut-être au départ de l'action. C'est assez confus et assez incompréhensible pour tout dire. En tout cas, il y avait un but pour les Messins. Et encore une fois, de la part de Georges Miko Tadze, a priori, il sera refusé. Autant pour moi. Okay. Faute au départ de l'action. Un partout toujours entre Metz et le PFC.
Allez, on retourne donc pas au Capitole, mais à Toulouse. Retrouver Nicolas Pelletier qui a été donc... qui a trouvé des fans du Moscato Show, mais il y en a beaucoup dans la région.
Ah, il y en a beaucoup dans la région, ça je te le confirme, François. Et donc ils m'ont dit, il faut absolument que tu viennes voir chez Tonton. Et donc chez Tonton, il y a des supporters du TFC et du Stade Toulousain au bord de la route qui sont en train de remuer les voitures au bord de la route et qui sont en train de chanter en faveur du Toulouse Football Club. Ils sont prêts pour la finale. Beaucoup d'alcool ici à Toulouse juste avant cette finale de Coupe de France. Et puis dans quelques minutes, ils vont tous faire la transhumance vers la place du Capitole qui se trouve à 10 minutes de marche d'ici. Et puis ils vont regarder cette finale sur la place du Capitole. 18 000 personnes sont attendues sur cette place en plein centre de Toulouse. Alors il y a la pluie, peut-être que la pluie va s'inviter à la fête, mais pour l'instant ça sera normalement de la petite pluie et donc les 18 000 personnes pourront venir voir cette finale sur la place du Capitole.
Ça va pas leur faire peur tout ça, même si bon, il y a eu cette mauvaise nouvelle pour les Toulousains, puisque Toulouse a perdu en rugby en demi-finale de Champions Cup contre Leinster 41-22. Vous l'avez suivi sur RMC. Alors, si le TFC réussit à gagner, contrairement aux homologues du rugby, qu'est-ce qui est prévu en cas de victoire, Nicolas?
Alors, si je t'entends bien. Si je t'entends bien, François. Oui. Demain, 18h, le trophée qui sera remis sur la place du Capitole en cas de victoire du Toulouse Football Club. Ils seront accueillis par le maire et plusieurs milliers de personnes seront rassemblées sur la place du Capitole ici à Toulouse en cas de victoire. Ça sera la mairie qui organisera tout ça. C'est la mairie aussi ce soir qui organise ce rassemblement avec 18 000 personnes autour de cet écran géant sur la place du Capitole. Et donc demain, une réception à 18h pour présenter le trophée en cas de victoire.
Et on va suivre ça bien évidemment avec toi, Nicolas Pelletier. Merci beaucoup et bonne soirée avec tes nouveaux amis.
Ça va être difficile parce que j'ai des énergumènes à côté de moi.
profite, c'est pas tous les jours.
Non, je disais, j'aime le conditionnel par rapport à demain. Donc,
Bah évidemment, toi tu préfères ça, oui, le conditionnel. Tu préfères qu'on dise le conditionnel.
Bien sûr.
Ah oui, il est déjà dans son match, Sébastien Piocel. Hein. Non, Toulouse, il rigole pas du tout hein, quand il dit ça. Attention, hein. Faut le voir hein, dans le studio. dans un instant, on sera à Nantes d'ailleurs pour voir et pour te faire plaisir, mais aussi pour voir comment ça se prépare cette fête possible du côté de Nantes. Mais d'abord, retour à la Ligue 2, 19h22. On suit la 33e journée de Ligue 2 avec ce but donc annulé, hein, bien annulé, Patrick Muller, pour le FC Metz face au Paris FC.
Je te confirme, François, effectivement, toujours ce score de 1 partout. Pour tout te dire, mais tu connais la géographie, si je puis dire, du Stade Saint-Symphorien et des tribunes. On est un petit peu loin de l'action, voilà. Donc en cas de situation litigieuse, pas simple. Et surtout, il n'y a pas de possibilité de revoir les images au moment où je te parle. Donc j'ai pas exactement vu ce qui s'était passé au départ, mais semble-t-il c'était une faute Messine qui a engendré effectivement l'annulation de ce but qui était signé Georges Mikotadze. Mais en tout cas voilà, c'est une rencontre qui tient ses promesses avec de l'intensité, avec des Messins qui veulent bien évidemment aller arracher cette victoire. Et puis petite anecdote très rapidement, les supporters messins ont choisi leur camp. On a vu une petite banderole Forza Viola. Désolé Sébastien. Voilà, il y a une amitié entre les Horda Frénétiques et les supporters de Toulouse. Donc voilà, côté messin, on croit plutôt aux chances.
On aimerait
voilà. En tout cas. Voilà, voilà, si tu veux, on reformule. Voilà.
Attention, partout, il est tendu.
Après 23 minutes.
Et du coup, pour l'instant, toujours Bordeaux avec un point d'avance sur Metz. Bordeaux qui se déplace à Valenciennes en ce moment. Clément Brossard,
ouais. Et dans les tribunes, là, il n'y a pas de message pour les finalistes de la Coupe de France. On est concentré sur le maintien pour Valenciennes et sur une potentielle montée pour les Bordelais. 24 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais des Bordelais qui ont du mal quand même dans l'ensemble à se créer des opportunités. On voit Josh Maja faire pas mal de courses. Attention à ce centre de Pitou, justement repoussé de la tête par Quentin Lecoche. Ça va revenir sur le côté droit avec un nouveau centre pour les Girondins de Bordeaux qui sera à nouveau au contré. On est dans un temps fort tout de même pour les Girondins, toujours 0-0 après 25 minutes de jeu.
Puis les autres scores de cette 33e journée avec Johan Bredov.
Et ça n'a pas bougé. Toujours 1-0 pour Guingamp face à Laval. Un pénalty de Livoland. Annecy mène toujours également 1-0 sur la pelouse de QRM, un CSC de Boécan. Et un partout entre Nîmes et Pau. Saïd à la deuxième. La réponse d'Henri Cévé pour les Palois à la 17e. Et pas de but entre Bastia et Amiens, entre Rodez et Saint-Etienne. Et 0-0 entre Grenoble et Niort.
Dans un instant, on retournera du côté du Stade de France pour les compositions d'équipe avant Nantes-Toulouse. On sera à Nantes, justement, pour voir comment se préparent les Nantais à cette finale entre Nantes et Toulouse, cette finale de Coupe de France que vous allez suivre en direct et en intégralité sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. On est en direct sur RMC pour vous faire vivre cette finale et l'après-match bien évidemment. Et puis allez sur le hashtag RMC Live. Là en ce moment, il y a des petites photos de Pierre-Yves Leroux avec une magnifique chevelure verte et de Jeannot Séguier avec une chevelure violette. Je vous assure, ça vaut le détour. Allez-y, envoyez-nous vos photos d'ailleurs de supporters. N'hésitez pas, hashtag RMC Live. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 19h27 sur RMC, soirée exceptionnelle puisque c'est la finale de Coupe de France ce soir au Stade de France entre Nantes et Toulouse. Beaucoup évidemment de supporters qui sont en train d'arriver. On sera dans un instant d'ailleurs aux abords du Stade de France pour voir comment ça se passe puisque c'est une finale, vous le savez, sous tension. On sait que des manifestations étaient prévues pour s'opposer à Emmanuel Macron, le président présent dans les tribunes, qui ne sera pas normalement sur la pelouse pour saluer les joueurs, mais qui les saluera dans les couloirs. Il sera là pour remettre la coupe dans la tribune. On aura l'occasion d'en reparler avec bien sûr Pierre-Yves Leroux, avec Jeannot Séguier dans un instant. On est avec Sébastien Piocel. On suit également la 33e journée de Ligue 2 en ce moment avec Bordeaux qui pour l'instant est tenu en échec par Valenciennes. Clément Brossard.
Après 28 minutes de jeu en effet ici au stade du Hainaut, on sent pas une équipe de Bordeaux qui pousse plus que ça. Il y a eu un petit temps fort tout à l'heure de 5 minutes et puis ça s'est calmé avec des Valenciennois qui essayent d'exploiter chaque faille dans la défense bordelaise parce que ça laisse parfois un peu d'espace. Mais pour l'instant, Hugo Bonnet, l'attaquant valenciennois, qui est en difficulté pour emmener son ballon, pour se présenter jusqu'à la cage de Rafał Strachek. C'est un début de match assez équilibré, même si Bordeaux met de plus en plus le pied sur le ballon sans se montrer plus dangereux que cela. Peut-être sur cette occasion avec Malcolm Bokele qui est sur le côté droit, qui va pouvoir redoubler avec le centre de Bokele pour Maja dans la surface de réparation. Pas de pénalty, il s'était effondré, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, et Antoine Valnet, l'arbitre de cette rencontre, qui a tout de suite fait signe aux Bordelais et aux Valenciennois qu'il n'y avait rien sur cette action. 29 minutes de jeu, 0-0 entre Valenciennes et Bordeaux.
Et du côté de Metz, Saint-Symphorien, Patrick Muller pour Metz Paris FC.
C'est la 29e, un partout entre Metz et le PFC, la possession des Parisiens sur le côté gauche de l'attaque, alors que on a vu une grosse séquence messine sur les 10 dernières minutes avec cette énorme situation gâchée, galvaudée par Sabali qui avait la possibilité de servir Kouaou. Le contre était idéal avec une récupération et une projection rapide à l'image de ce que produisent les Messins depuis le début de cette rencontre. Et il s'est complètement troué alors que Diallo aurait pu être servi dans de bonnes dispositions et se retrouver seul face à De Marconnet. Petit manque d'efficacité et d'efficience là sur ce coup-là. Et les Messins, eh bien, qui ont eu très très chaud quand même, hein, en début de match avec, on le rappelle, cette ouverture du score très précoce, 13e minute, ce but de Guilavogui. Et ils ont eu le mérite et les ressources mentales pour égaliser rapidement ce pénalty transformé tout à l'heure à la 17e par l'inévitable Georges Mikotadze, qui pèse désormais 20 buts dans cette saison de Ligue 2. 30 minutes de jeu tout juste et un partout donc entre Metz et le PFC.
Ce qui fait que pour l'instant au classement, Bordeaux est à 8 points des Havrais. Les Havrais vainqueurs de Caen cet après-midi de 2-1, et les Messins sont à un petit point derrière 3e. On rappelle que seuls les deux premiers joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Johan Bredov pour les autres résultats de cette Ligue 2.
Et pour l'instant un but également à vous signaler à l'instant, c'est Bastia qui vient d'ouvrir le score face à Amiens, le but de Chour à la demi-heure de jeu. Mais j'étais en train de me dire, vu la célébration des Bastiais, Seb, est-ce qu'on croit pas encore à la montée?
Bah oui, enfin tant que c'est possible. Après, sincèrement, ils sont quand même assez loin. Ouais. Pour moi aujourd'hui, ça se joue vraiment, mis à part le Havre, forcément entre Bordeaux et Metz.
Ouais, ils sont à 5 points là pour l'instant des Bordelais, évidemment.
Oui, non,
tout à fait provisoire, mais
ça me semble quand même compliqué.
Oui, mais ça c'est parce que t'as pas envie d'y croire. C'est ça. Peut-être. C'est la superstition de l'ancien footballeur, ça. Hein, peut-être, c'est peut-être un peu ça.
Hein. Et un autre but également à l'instant, quasiment en même temps, c'est Grenoble qui vient d'ouvrir le score. 1-0, le but des Grenoblois au stade des Alpes. Donc voilà, 1-0 pour Grenoble face à Niort. Et concernant les autres rencontres, toujours 1-0 pour Guingamp face à Laval. Un but partout entre Nîmes et Pau. Annecy qui fait la très belle opération en bas de tableau pour l'instant en s'imposant, en menant 1-0 sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Et 0-0 entre Rodez et Saint-Etienne à la 32e. Minutes de jeu.
Allez, la Coupe de France, c'est sur RMC. Je vous l'ai dit, à 21h, dans 1h30 exactement, le coup d'envoi de ce Nantes-Toulouse, 106e finale de Coupe de France. Il y aura également, bien sûr, à partir de 20h, toute l'équipe de l'After délocalisée autour de Nicolas Jamin pour un avant-match XXL. Et puis, on aura, bien sûr, les compositions d'équipe dans l'intégral foot, je l'espère, avec Jeannot Rességui et Pierre-Yves Leroux. Mais d'abord, direction Nantes et plus précisément le Cours Saint-Pierre, où on retrouve Xavier Grimaud. Salut Xavier!
Salut François, salut Seb, alors, bonsoir à tous.
Alors comment on se prépare à Nantes, à faire la
chez
fête.
Toi, Seb.
ils sont habitués, donc
voilà, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de faire la fête, mais comment ça se passe?
Et s'ils avaient trop l'habitude, messieurs? Non, parce qu'il y a un petit peu moins de monde qu'il y a un an pour l'instant, donc au Cours Saint-Pierre. Donc pour vous raconter, je suis dans la fan zone. Il y a deux écrans géants qui se font face, Cours Saint-Pierre, Cours Saint-André. C'est une énorme esplanade, hein, Seb, tu dois la connaître. Oui. Il y a 20 000 personnes qui peuvent garnir cette esplanade. Et l'an dernier, il y avait 17 000 supporters. J'étais déjà là pour vivre l'ambiance la saison dernière. Une magnifique ambiance avec beaucoup de jeunes, des fumigènes, des chants. Et pour l'instant, je dois avouer que c'est beaucoup plus calme. On m'a annoncé environ pour l'instant 1500 personnes qui seraient arrivées. Alors c'est vrai que le coup d'envoi n'est qu'en 1h30, mais je pense qu'on n'atteindra jamais les 10 personnes de la saison dernière. Alors c'est pas forcément qu'à Nantes on est blasé. Il y a aussi dernier week-end de vacances scolaires dans l'Ouest, enfin ce genre de choses évidemment qui font qu'il y aura peut-être un petit peu moins de monde, mais les supporters y croient en tout cas. Beaucoup de maillots évidemment, des drapeaux, des écharpes, beaucoup de maillots de Palois, de Nicolas Blas, de Ludovic Blas pardon, et d'Emiliano Sala. Et je cherche depuis tout à l'heure un maillot Sébastien Piocelle pour t'envoyer la photo, François. Et pour l'instant j'en ai pas trouvé. Je suis sûr que je vais trouver d'ici.
Figure-toi qu'il y en a au moins
du stade de France.
Moins un, parce qu'il y a Jonathan Lacour, donc qui lui pour le coup pour Toulouse, qui m'a envoyé une photo en me chambrant en me disant tu es en train d'arriver au stade.
Ouais, il y avait quelqu'un avec le maillot de Sébastien Piocelle, voilà,
numéro 12.
Ah bah je vais faire un Oué Charlie, je vais essayer de dénicher ce maillot.
Bah, il est collector, hein, évidemment, le maillot Sébastien Piocelle.
Ça va être superbe, évidemment. Il y a les images de l'an dernier qui ont été mises sur les écrans géants et qui sont mises même en ce moment même, et à chaque fois, c'est évidemment des chants, et on se remémore la magnifique victoire de l'an dernier en espérant faire le doublé. Et tous les supporters que j'ai interrogés pour l'instant m'ont dit le championnat, même pas la peine de poser une question dessus, on le switch complètement ce soir, c'est la coupe et on verra plus tard, en espérant évidemment que l'histoire se finisse bien.
Mais justement, c'est ce que je voulais te poser comme question, parce que c'est vrai que c'est une victoire qui pourrait faire du bien aux supporters dans cette saison difficile, mais du coup il n'y aura pas de célébration pour en cas de victoire, non?
On se concentre sur le maintien. Non, il n'y aura pas de célébration. Ben oui, évidemment, c'est vrai que ça aurait pu être malvenu. L'an dernier, ils étaient libérés de tout ça, les Nantais, donc ils avaient fait une superbe fête sur un temps, avec un temps estival. En plus, il y avait encore une dizaine de milliers de personnes qui les attendaient le dimanche. Là, il n'y aura rien. Le club l'a annoncé très tôt, dès le début de semaine. Pas question de s'éparpiller parce que dans 4 jours, il y a un match qui sera important.
On a connu ça aussi, Xavier, en 2000, où on l'avait pas fêté par rapport à 99.
Ouais.
Parce qu'il y avait ce match face au Havre aussi où on se sauve à la dernière journée. Donc le maintien n'était pas du tout assuré. J'ai envie de dire que c'était encore plus critique.
Est-ce que ça vous avait fait du bien justement de gagner cette Coupe de France? Ça
oui,
vous avait
aidé? Forcément. Parce que quelque part, tu es un petit peu sur un nuage. Tu regagnes un petit peu en confiance. Alors tu laisses aussi beaucoup d'énergie sur ce type de rencontre. Mais après, les joueurs sont quand même professionnels. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, il faut un petit peu compartimenter. C'est un match complètement à part. Et derrière, il restera quand même pas mal de solutions aussi au Nantais pour se sauver.
Il y a un calendrier qui est complètement dingue pour Nantes, parce qu'après cette finale de Coupe de France, il y aura un match contre Brest, qui est un concurrent direct pour le maintien la semaine prochaine, suivi d'un match contre Strasbourg.
Donc la semaine est décisive pour les Nantais. D'où la position discutable de la finale.
Ah, tu veux qu'on appelle Roland Courbis?
Ouais, on peut.
Coach, c'est vrai qu'il n'aime pas du tout ces finales qui sont placées trop tôt dans la saison.
Non mais là clairement il y a trois matchs où si Nantes les remporte, c'est vraiment une fin de saison parfaite avec cette Coupe de France qui les emmènerait encore en Europe l'année prochaine et puis ce match à Brest. Mais bon, à Brest ils sont très attendus, ce sera un match, le fameux match à 6 points si on continue avec Roland, parce que une défaite de Nantes à Brest, ce serait compliqué, et les Brestois évidemment les attendent de pied ferme. Donc voilà, pour l'instant les supporters veulent pas penser à la Ligue 1, on se concentre sur cette finale, on attend la compo d'équipe et puis l'ambiance est calme, est vraiment beaucoup plus calme que la saison dernière, je me répète, mais c'est assez flagrant le grand écart pour l'instant. Faut pas être blasé les supporters nantais, si vous nous écoutez et que vous êtes à Nantes, sortez de vos apparts, il fait beau, il fait bon, donc et venez dans la fan zone pour garnir un petit peu l'assistance.
Avec vos maillots Sébastien Piocel, ça c'est obligatoire. Et
voilà.
Sortez avec le maillot Sébastien Piocel et comme ça Xavier vous allez le voir et il pourra prendre la photo. Hashtag RMC Live bien sûr pour les maillots Sébastien Piocel, n'hésitez pas. Merci beaucoup Xavier, on te retrouvera bien évidemment monsieur. Tout au long de cette soirée du côté de Nantes, on retournera à Toulouse aussi retrouver Nicolas Pelletier pour voir un petit peu où en est l'ambiance. Puis dans un instant, on sera aux abords du Stade de France en attendant bien sûr les compositions d'équipe de cette Coupe de France. Des nouveaux buts en Ligue 2, ça tombe.
Double égalisation déjà entre Bastia et Amiens. Bastia qui menait 1-0, donc l'égalisation amiennoise. Un but partout après un coup franc tiré de la gauche vers la droite. Un coup franc en rentrant, ça va traîner dans la surface de réparation dans une forêt de jambes et ça va être repris par Assogba, donc qui permet à Amiens d'égaliser. Un but partout à la 38e minute de jeu. Et l'autre but, l'autre égalisation, elle est entre Guingamp et Laval. Guingamp qui menait 1-0 dès le début de la rencontre, un pénalty de Livelon, et c'est Elisor qui vient marquer pour les Lavallois. Un but partout, corner pareil de la droite vers la gauche, la tête, une tête au premier poteau qui va revenir d'ailleurs sur Elisor, qui va reprendre ensuite à bout portant. Un but partout donc entre Guingamp et Laval, 38e minute de jeu.
Et on va suivre le duel à distance, bien sûr, pour la montée entre Bordeaux et Metz. Bordeaux qui est pour l'instant tenu en échec par Valenciennes. Clément Brossard, le temps, le score.
37e minute, 0-0 toujours entre Valenciennes et Bordeaux. Pas la moindre frappe cadrée, on aimerait bien que ça bouge un petit peu, Oueno.
Toujours match nul également entre Metz et le Paris FC. Patrick Muller.
Effectivement, un partout entre les deux équipes. Le PFC avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Guy Lavoghi à la 13e. Miko Tadze pour le FC Metz a égalisé à la 17e. Un pénalty transformé, 37 minutes. Un partout entre Metz et le PFC.
La fin des premières périodes en Ligue 2 et bien sûr la suite de notre soirée exceptionnelle autour de la finale de Coupe de France Nantes-Toulouse. C'est tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Vous êtes sur RMC, l'intégral foot, 19h40, à partir de 20h, bien sûr, le rendez-vous au Stade de France, avec nos envoyés spéciaux, avec Nicolas Jamin, délocalisé, bien sûr, toute l'équipe de l'After, autour de la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Ça nous amènera cette soirée jusqu'à 1h30 du matin, puisqu'il y a la libre antenne après les gros matchs, vous le savez, sur RMC. C'est libre antenne, c'est votre moment, à partir de minuit et demi jusqu'à 1h30 avec Walid Acherchour. Libre antenne sur Twitch et sur RMC, bien sûr, juste après l'after. Dans un instant, on sera d'ailleurs aux abords du Stade de France pour prendre un peu la température à quelques heures maintenant de cette finale de Coupe de France. Mais d'abord, la Ligue 2, 33e journée, c'est la fin des premières périodes un petit peu partout. On va aller du côté de Bordeaux. Bordeaux est toujours tenu en échec par Valenciennes. Clément Brossard.
À Valenciennes, ouais, 41
on va à
minutes
Valenciennes, effectivement.
De jeu dans le Nord, François. Corner à venir pour les nordistes, justement. Jason Berthomier pour le frapper de la gauche vers la droite en regardant la cage de Strachek, le gardien bordelais. Ça passera devant tout le monde, sera récupéré au second poteau par Hugo Bonnet, en difficulté, hein, l'attaquant valenciennois depuis le début de cette rencontre, qui a du mal à prendre chaque espace, qui est souvent cerné par la défense centrale Stian Gregersen et Johan Barbé. Barbé qui a eu un coup franc tout à l'heure mal négocié, toujours pas la moindre frappe cadrée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 4 pour Bordeaux, 3 tentatives pour Valenciennes, mais à chaque fois c'est à côté ou au-dessus. Nouvelle offensive pour les nordistes désormais, avec toujours Jason Berthomier sur le côté. Ouais, le beau flip-flop là pour entrer dans la surface de réparation, le centre en retrait, Hugo Bonnet qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Ce sera un renvoi au 6 mètres, 4 minutes avant la pause, toujours 0-0 entre Valenciennes et Bordeaux.
On va voir comment se débrouille Metz, 3ème qui affronte le Paris FC au stade Saint-Symphorien. Patrick Muller.
Il reste 3 minutes dans cette première période, un partout entre Metz et le Paris FC. C'est pas si simple hein, pour Metz cette affaire, cette rencontre, parce que à la fois l'équipe emmenée par Thierry Loret, je parle bien évidemment du Paris FC, fait un match de qualité sans se créer beaucoup de situations, mais en laissant toujours planer un petit peu la menace, et aussi parce que c'est pas simple, parce que les Messins font de bonnes choses dans les remontées de balles, dans les attaques et le jeu combiné, mais il y a toujours un petit peu de déchets dans l'avant-dernière passe, dans le dernier choix, et c'est là que le bas blesse clairement, parce que les situations, elles ont existé, elles existent, notamment avec Diallo, là qu'on a essayé de servir, plus exactement Sabali, mais récupération dans l'entrejeu du PFC qui va pouvoir se projeter sur le côté gauche avec un ballon pour Lefort, à signaler que Chahiri pour les Parisiens a cédé sa place, remplacé par Kanté, et cette remontée de balle, cette montée de balle qui n'a rien donné, ce sera une remise en jeu en faveur des Messins. 2 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période, un partout, toujours entre Metz et le PFC.
Et Johan qui suit les autres rencontres de cette 33e journée de Ligue 2 avec nous.
Il y a eu des grosses occasions entre Guingamp et Laval, un but partout pour l'instant à la 43e minute de jeu, et la double occasion énorme de Laval avec Tapoko dans un premier temps, la parade exceptionnelle de Youfegan, ensuite c'est Silla qui reprend à bout portant, et encore une fois la main droite solide du gardien guingampé pour sauver les siens. Ça a donné un corner derrière qui n'a pas donné d'occasion de but, mais toujours un partout entre Guingamp et Laval, et les Tangos poussent sinon sur les autres pelouses, toujours un but partout entre Bastia et Amiens. 1-0 pour Grenoble face à Niort, 1-0 pour Annecy sur la pelouse de Quevilly-Rouen, 0-0 entre Rodez et Saint-Etienne, et j'ai fait une pause pour savoir s'il y avait bien but à Nîmes entre Nîmes et Pau, et il y a bien but des Crocos, 2-1 désormais pour les Nîmois qui se battent pour le maintien, qui montrent un gros caractère et qui mènent désormais juste avant la mi-temps, 2-1 face au Pau FC. Le buteur c'est Chokounte.
Et Nîmes pour l'instant qui remonte à la 18e place, toujours relégable, mais à 6 points de Valenciennes qui fait 0-0 contre Bordeaux. On retourne à la Ligue 2 dans un instant, mais la finale de Coupe de France va nous intéresser jusqu'à 1h30 du matin. Je vous l'ai dit sur RMC à partir de 21h, à ne pas rater, bien évidemment, en direct en intégralité, commenté par Jeannot Séguier et Pierre-Yves Leroux, cette finale entre Nantes et Toulouse. Une finale sous haute tension. On rappelle qu'un arrêté de la préfecture de police avait interdit des manifestations autour du stade, où les syndicats voulaient distribuer sifflets, cartons rouges aux supporters pour protester suite à la présence du président Emmanuel Macron. Le tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté, ce qui veut dire que des distributions ont pu avoir lieu. On va retrouver autour du stade justement Léna Marjac pour RMC. Salut Léna.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors, est-ce que cette manifestation a lieu et a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu cette distribution attendue de cartons rouges et de sifflets?
Oui, elle a bien eu lieu parce que on voit arriver donc ces supporters toulousains et nantais aux abords du stade avec en main pour certains le carton rouge et le sifflet. Et alors juste là où je me trouve, juste en dessous, eh bien il y a la palpation, vous savez, c'est obligatoire pour rentrer dans un stade. Alors les sifflets sont confisqués, ça c'est une obligation quand on rentre dans une enceinte sportive. Et puis les cartons rouges, eh bien ça a fait mettre en colère certains supporters parce que eh bien on les interdit également selon les agents de sécurité, c'est un ordre qui est...
Bon, visiblement, il y a des problèmes de connexion avec Léna, mais elle nous expliquait effectivement que certains stadiers retiraient les cartons rouges des poches des supporters.
Ils n'ont peut-être pas eu l'info.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a, voilà. En tout cas, il y a un petit problème au niveau de l'entrée des supporters pour ça, parce que des cartons rouges, a priori, ça fait pas mal quand on le prend sur la tête. Même s'il vaut mieux éviter de lancer des choses. On rappelle aussi qu'Emmanuel Macron devrait saluer les joueurs dans les couloirs du Stade de France et non sur la pelouse comme il en avait l'habitude depuis 3 ans.
C'est une première, ça, non?
Alors c'est une première pour Emmanuel Macron qui lui avait l'habitude de descendre sur la pelouse parce que sinon il y a certains présidents qui n'y allaient pas du tout hein, sur la pelouse. C'est le cas de François Hollande qui a jamais voulu aller saluer les joueurs avant une Coupe de France. 3000 policiers et gendarmes mobilisés, c'est 1000 de plus aussi que cette finale de Ligue des Champions de triste mémoire entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Donc on prend vraiment tout ça au sérieux puisqu'il y a également de la rivalité au-delà du contexte politique entre des supporters ultra de Toulouse et les supporters ultra de Nantes. Et puis des grilles ont été installés autour des tribunes du Stade de France parce que les autorités redoutent vraiment des envahissements de terrain. Voilà pour le contexte. On a vu avec l'ENA effectivement que la manifestation avait pu avoir lieu et pour l'instant ça se passe bien. On essaiera de retourner voir l'ENA Marjac aux abords du Stade de France avant bien évidemment ce coup d'envoi. On va retourner pour la fin de nos matchs de Ligue 2, la fin de la première période un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des matchs qui se sont terminés, des premières périodes terminées?
C'est la pause. Johan.
C'est la pause.
C'est la pause à Valenciennes, ouais. Exactement, 0-0 entre VA et Bordeaux. Pas de frappe cadrée dans cette première période. Une première période équilibrée, il faut le dire. Bordeaux a mis un peu plus le pied sur le ballon, mais vraiment Valenciennes, 15e de cette Ligue 2, n'a pas envie de perdre tout simplement parce qu'elle voit que les concurrents derrière eh bien, peuvent grappiller des points et que finalement le National n'est pas très loin pour Valenciennes, donc tout reste à jouer encore dans ces 45 prochaines minutes.
C'est la pause également dans d'autres, sur d'autres terrains, Yann Bredaou.
Ouais, c'est la pause entre Bastia et Amiens, un but partout entre les deux équipes. La pause entre Grenoble et Niort, les Grenoblois qui mènent 1-0. La mi-temps à l'instant entre Guingamp et Laval, un but partout. La mi-temps entre Rodez et Saint-Etienne, 0-0. Et ça continue de jouer entre Nîmes et Pau, Nîmes qui mènent 2-1. Et ça joue encore entre Quevilly-Rouen et Annecy, les Annéciens qui mènent 1-0. On est dans le temps additionnel de ces deux rencontres.
On va vivre la fin de la première période entre Metz et le Paris FC. C'est pas totalement terminé, Patrick Muller.
Ah, effectivement, il reste quelques poignées de secondes dans le temps réglementaire, dans le temps additionnel, pardon. Il y avait 3 minutes de temps supplémentaire, nous a indiqué monsieur Lega. Et un coup franc au bénéfice des Messins. Tous les Grenats, évidemment, qui se sont positionnés dans la moitié de terrain du PFC. Un partout entre les deux équipes. Un ballon pour Mathieu Hudol. Ah, c'est mal donné, ça, sur le côté gauche de la part du capitaine Messin. Et c'est la pause, indique monsieur Lega. C'était parti sur un gros rythme avec deux buts dans les 20 premières minutes. Ça s'est tari plus tard et notamment avec des Messins qui font de belles choses pendant 80 mètres mais qui manquent d'efficacité, qui ont mal géré certaines situations. En revanche, François, on a revu les images de ce but annulé. Bon, a priori, pas trop de regrets à avoir pour les Messins parce qu'il semblerait qu'il y avait effectivement une faute sur une récupération. C'était sur Bernauer, donc ce but qui a été a priori annulé pour de bonnes raisons. Un partout, en tout cas à la pause, entre Metz et le Paris FC à la mi-temps.
On te retrouve évidemment en deuxième période, Patrick. Merci beaucoup, tout comme Clément Brossard qui suit donc Valenciennes-Bordeaux. D'autres matchs qui se sont terminés, Johan?
Ouais, entre Quevilly-Rouen et Annecy. Annecy qui mène à 1-0 à la pause. C'est la très bonne opération pour l'instant de cette journée. Annecy qui mène 1-0, qui prend 4 points d'avance donc sur la zone rouge. Et ça joue encore, je vous le disais, entre Nîmes et Pau, 2-1. On est dans la 4e minute du temps additionnel. Le corner pour les Nîmois, ça va être repoussé, dégagé par la défense paloise. Peut-être le contre qui va s'enclencher. Il reste encore 15 secondes. On est sur le côté droit avec le Pau FC qui va essayer d'accélérer la touche. L'arbitre qui va pas tarder à siffler. Il reste 5 secondes à jouer. Les Nîmois qui mènent 2-1. Ça y est, c'est la mi-temps, 2-1. Donc pour Nîmes face à Pau, là aussi très bonne opération pour les Nîmois qui reviennent quand même, qui ont toujours de la distance à parcourir. Il y a toujours 6 points de retard sur Valenciennes, mais la victoire peut faire du bien et pourquoi pas créer une dynamique.
Effectivement, ça c'est un des enseignements de cette première période. On est toujours avec Sébastien Piocel. Nîmes qui mène, il y a Annecy également qui, grâce à cette victoire qui se profile face à Quevilly-Rouen, fait la bonne opération dans le bas du tableau. Ce qui veut dire que pour Valenciennes, pour Laval, là ça devient quand même tendu.
Ouais, ça devient tendu, même s'il reste encore une mi-temps et des matchs derrière. Mais c'est vrai que Annecy en tout cas ferait un grand pas. Ouais. Pour le maintien. Bon, Pau en perdant, ils s'étaient quand même rapprochés.
Ouais, mais ils ont 5 points d'avance sur Laval, hein, voilà, le premier relégué.
C'est surtout Valenciennes, en fait, qui, en plus, ça ferait tes affaires. Je suppose que
Comment ça?
Si Valenciennes battait.
Ah oui, non, mais Valenciennes, il faut qu'ils se réveillent absolument. Mmh. Mais c'est pour eux, hein, surtout. Pour eux. Pas pour le FC Metz. Et sinon, dans le haut du tableau, évidemment, ce duel à distance. Alors, pour l'instant, on a l'impression, Bordeaux et Metz, pour l'instant, ne gagnent pas. Il suffit qu'il y en ait une des deux qui s'impose. Et elle ferait une très, très belle opération.
Ouais, puis c'est assez équilibré, même si, bon, finalement, Metz domine quand même cette partie. Bordeaux, c'est un peu plus équilibré. Mais c'est vrai que s'il y avait une des deux équipes qui devait s'imposer, l'autre ou faire nul ou perdre, il y aurait aussi un ascendant psychologique aussi pour la suite.
Alors, je ne vais pas parler que des Messins, mais il y a un joueur encore, on en parle beaucoup et tu es bien placé pour le savoir puisque tu fais toujours l'intégral Foot League 2 sur RMC. C'est Miko Tadze qui est le meilleur buteur du club, qui a marqué un pénalty. Certes, c'est un pénalty, mais encore faut-il le marquer, et qui fait une saison remarquable. Là, il sort Metz d'un mauvais pas puisque les Messins étaient menés 1-0.
Ouais, puis au-delà des buts, c'est un joueur dans la construction qui est hyper intéressant. Et, bon, si Metz remonte, ils auront peut-être l'opportunité de le garder, mais c'est vrai que quand tu mets une vingtaine de buts, c'est un joueur complet et c'est hyper important aussi pour un club. On le voit, même Le Havre qui domine cette Ligue 2 n'a pas vraiment de buteur attitré. Donc il joue un peu différemment, mais c'est vrai que Metz s'appuie énormément sur Miko Tadze.
En tout cas, Le Havre, puisque tu en parles, s'est imposé 2-1 un peu plus tôt cet après-midi à Caen. Une victoire très importante pour les Havrais qui, comme tu le disais en début d'heure, ont fait un pas de plus vers la Ligue 1 avec cette victoire. 68 points pour Le Havre, devant pour l'instant Bordeaux 60 points, donc 8 points d'avance sur les Bordelais et 9 points d'avance sur les Messins qui se talonnent, alors que Sochaux jouera à partir de lundi. Voilà pour la Ligue 2. On reviendra bien sûr pour suivre cette deuxième période dans un instant avec Valentin Jamin à partir de 20h. Je vous le rappelle, au Stade de France pour cette soirée exceptionnelle. Soirée Coupe de France ce soir, 106e finale entre Nantes et Toulouse. Et nous sur RMC, on a la chance, on fait bien les choses. Il y a Pierre-Yves Leroux, le Nantais, qui est au Stade de France avec Jeannot Rességuier. Qui est de Montauban, qui est là, qui est de retour.
Avec les gardiens du TFC qui rentrent à l'instant même sur la pelouse, avec Maxime Dupé qui est le numéro 1, celui qui joue en Ligue 1, et également le gardien, lui, titulaire en Coupe de France, Katie Hogg, le Norvégien, qui vont aller donc à l'échauffement. Pierre-Yves est là. Allô, monsieur Pierre-Yves Leroux.
Je ne sais pas s'il est encore là, Pierre-Yves.
Non, il est pas très loin. Là, il vient de s'être équipé là, du système HF, parce qu'il va avoir la chance de descendre sur le bord de la pelouse. Et donc, on
le voit, Jeannot.
Ça, il est là. Tout va bien.
Quelle ambiance. Et on a déjà gagné du côté nantais la bataille des tribunes, parce qu'il y a quelques instants, il y a eu des tests avec les deux speakers.
Tiens, regarde tes gardiens. Alban Lafont.
Rémi Descamps. Avec Alban Lafont. Et c'est vrai que c'est du 60-40.
Détends-toi là, tu m'as l'air un peu crispé quand même. Hein. Détends-toi, je t'en prie. Prends le temps de descendre au bord de la pelouse. Prends le temps de humer l'atmosphère. T'es un habitué quand même du Stade de France, Pierre-Yves. Je te sens très très crispé. Sûr.
Non, pas du tout.
Bon, en tout cas, c'est dans Toulouse.
On attend les compos. Il y a apparemment une surprise du côté de Nantes. Donc, on essaie de gratter ça.
Puisque tu parlais des gardiens, ce qui m'intéresse, moi, c'est de demander à Sébastien Piocel ce choix différent de la part de Comboire et de Montagnier. A priori, Montagnier qui va continuer de faire confiance au numéro 2, qui joue les matchs de coupe et uniquement les matchs de coupe, le Norvégien Hogg. Et en face, Comboire qui a fait le choix de faire jouer son numéro 1, Alban Lafont, alors que c'était le numéro 2 qui jouait les matchs de coupe. Tu préfères quoi, toi?
Non, mais c'est vrai que c'est frustrant pour le numéro 2 qui est habitué à jouer cette compétition
jusqu'en finale
et qui n'est pas choisi pour la finale. Après, je suis du choix de mettre le meilleur, en fait. Hein. Donc, après, je ne suis pas gardien. Je sais que c'est un poste très particulier, très frustrant. Là-dessus, je rejoins Antoine Comboiré sur le fait d'aligner Alban Lafont et se donner plus de chances, certainement, de gagner cette finale.
On verra évidemment la fin du match.
Ah, qui a raison, oui,
bien ça. Évidemment, ça c'est sûr, mais avant match, avantage à Comboiré pour Sébastien Piocel. On attend toujours évidemment les compositions.
Alors, j'ai la feuille de match qui vient d'arriver à l'instant même.
Wow, magnifique.
Pour ce qui est du Football Club de Nantes, il y a surprise, mais à Toulouse aussi. On va commencer par Nantes, hein, puisque la finale c'est Nantes-Toulouse. Alban Lafont dans le but, avec Palois, avec Joao Victor pour ce qui est des défenseurs. Castelletto 111, donc déjà au niveau de l'axe gauche, il y avait réflexion entre Joao Victor et Merlin. Donc c'est Joao Victor qui va débuter. Ensuite, il y a Giroto, puis Sissoko, Florent Mollet, Ludovic Blas, Moïse Simon, et Mohamed. Donc voilà, il y a quand même une Petite surprise au milieu de terrain puisque Moutou Sami va débuter sur le banc des remplaçants. Il n'y aura pas de Ganago non plus qui avait été plus ou moins annoncé, mais c'est donc Simon qui va être sur le côté gauche. Voilà pour la composition de Nantes. Pour ce qui est du Toulouse Football Club, il y avait la réflexion entre Shaibi ou Ratao. C'est Shaibi qui va débuter en attaque sur le côté gauche. Lui, le buteur de la demi-finale, vous vous souvenez, ce ballon perdu par les joueurs d'Annecy et qu'il avait réussi à lober le gardien dans un ballon à l'entrée de la surface de réparation, néo-international algérien. Abou Klaïl, l'international marocain, lui sera sur le côté droit de l'attaque pour accompagner Thys Dalinga, l'attaquant et buteur néerlandais de cette équipe. Et donc le milieu de terrain, De Jager, le capitaine, Spierings et Van den Boomen pour pas de surprise. Et d'un point de vue défensif, c'était Logan Costa qui a la particularité d'avoir fait tous les matchs de Coupe de France avec le gardien Titi Hogg. Et bien il sera titulaire. C'était ou avec Rouault ou avec Nicolas Hyssen. Ce sera avec Nicolas Hyssen donc pour la charnière. Dessler dans le couloir droit et le Chilien Soiseau dans le couloir gauche. Je vous l'ai fait un petit peu dans le désordre, oui. Mais la feuille de match vient à peine d'arriver à l'instant. Et je voulais quand
parfait.
Même qu'on ait bien conscience
les joueurs.
Que chez les deux coachs, il y a quand même eu la volonté de modifier un petit peu la structure de l'équipe tant à Nantes qu'à Toulouse.
Et on va pouvoir continuer d'en parler de tout ça, de ces compositions d'équipe, de l'ambiance au Stade de France avec Sébastien Piocelle. Tu restes bien évidemment jusqu'au coup d'envoi 21h de ce Nantes-Toulouse. Merci Jeannot, merci beaucoup Pierre-Yves Leroux et on va laisser la main désormais à Nicolas Jamin, toujours en direct du Stade de France, antenne délocalisée spécialement pour cette rencontre. Salut Nico et bon match.
Salut François, effectivement on prend le relais dans quelques secondes bien sûr pour cette grande soirée de football, la 106e finale de Coupe de France. Elle est indécise entre Nantais et Toulousains. Le dispositif exceptionnel ici à RMC. On est au bord du terrain, on est en tribune de presse. Il y a Jeannot Rességuier. Il y a deux anciens vainqueurs de Coupe de France à nos côtés qui vont nous rejoindre. Kevin Diaz sera là également pour suivre cette rencontre en direct du Stade de France. Soirée jusqu'au quasiment bout de la nuit, jusqu'à 1h30 du matin. Et on te retrouvera, François, à partir de 00h30 pour la libre antenne aux côtés de Walid Acharchour. Dans un instant, le lancement de cette super soirée au Stade de France, la finale de la Coupe entre Nantes et Toulouse.
RMC, l'Afterlife.